Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 27 juin 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. La question du pétrole iranien s'invite au sommet G7, selon l'Élysée. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la présence des étrangers dans la région est cause de problèmes et non pas une solution, déclaration du président iranien Ebrahim Raisi. L'Iran veut du bien pour la région, a insisté Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne. Et puis la relance du PGAC, l'Iran choisit le Qatar comme le lieu des négociations nucléaires. C'était les principaux titres que nous allons développer tout de suite dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran et l'Irak ont déclaré qu'ils avaient convenu de travailler ensemble pour aider à mettre fin aux souffrances du peuple yéménite par le dialogue. Sans aucun doute, nous considérons la poursuite de cette guerre comme vaine et infructueuse et nous pensons qu'elle n'apportera que des souffrances au peuple et que cette guerre doit cesser le plus tôt possible et qu'un cessez-le-feu peut être une étape vers le règlement des problèmes yéménites et les prévus pour parler inter-yéménite, a déclaré le chef du gouvernement iranien. Des remarques ont été faites par le président Raisi dans un communiqué conjoint avec le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi à l'issue de leur rencontre à Téhéran. Ebrahim Raisi a déclaré que Téhéran et Bagdad pensent que les pays de la région peuvent résoudre eux-mêmes leurs problèmes par le dialogue. Il a déclaré que la présence des forces étrangères dans la région ne fait qu'aggraver les problèmes actuels. Le président iranien s'est également attardé sur la normalisation des relations avec Israël par un certain nombre de pays de la région et a déclaré que cela n'apportera pas la sécurité au régime de Tel Aviv. Concernant les relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le chef du gouvernement iranien a affirmé que la visite du premier ministre al-Kazimi à Téhéran pourrait être un tournant dans les relations irano-irakiennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays ne voulait rien d'autre que du bien pour la région, soulignant que la solution aux problèmes régionaux devait être trouvée au sein de la région elle-même. Hossein Amir Abdollahian a fait cette remarque à l'occasion d'une rencontre avec le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi à Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne a également remercié l'Irak pour son rôle constructif dans les pourparlers entre la République islamique et l'Arabie saoudite. Amir Abdollahian a déclaré que l'Iran soutenait la réouverture des ambassades respectives des deux pays à Téhéran et à Riyad. Il a également souligné les relations entre l'Iran et l'Égypte, affirmant que le renforcement des liens entre Téhéran et le Caire profitera à toute la région et au monde musulman. Le premier ministre irakien a pour sa part souligné le rôle de poids de l'Iran dans les évolutions régionales. Sachez également que le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi a qualifié les relations irano-irakiennes de très importantes, soulignant l'accord des deux parties pour renforcer les relations commerciales afin de servir les intérêts et les avantages des deux peuples. Lors de la conférence de presse conjointe aux côtés du président Raïsi à Téhéran, dimanche, il a évoqué les relations historiques, culturelles et religieuses entre les deux pays voisins et a déclaré « Au cours des pourparlers, nous avons discuté des moyens d'élever le niveau des relations bilatérales ». Al-Kazimi a indiqué que les deux pays ont également convenu de fixer un délai pour faciliter les affaires des pèlerins iraniens qui ont l'intention de visiter le sanctuaire du l'imam Hossein, béni soit-il. Il a souligné la récente ouverture des frontières terrestres aux visiteurs iraniens en plus des vols qui étaient auparavant en place. Le premier ministre irakien a souligné que son pays accueillerait les visiteurs et les touristes et serait à leur service de toutes ses forces. L'Iran a choisi, je vous le disais en titre, le Qatar pour accueillir les pourparlers sur le nucléaire de 2015 et la levée des sanctions parce que c'est un pays ami, a déclaré le conseiller médiatique de l'équipe négociatrice iranienne dans les pourparlers sur la relance du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Il est dans l'intérêt de l'Amérique de signer l'accord vu les évolutions internationales auxquelles nous assistons, dont la guerre ukrainienne, a-t-il précisé. Plus tôt, le ministère iranien des Affaires étrangères avait confirmé qu'un pays du Golfe Persique accueillerait les prochaines négociations indirectes avec les États-Unis sur la relance de l'accord multilatéral. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que Washington avait accepté de remplir toutes ses obligations en vertu du plan global d'action conjoint et de garantir les avantages économiques de l'Iran, comme c'est annoncé officiellement par le chef de la politique étrangère de l'Union européenne lors de sa récente visite à Téhéran. Le diplomate iranien a déclaré que les prochaines discussions avec les États-Unis se concentreront sur les questions restantes concernant la levée des sanctions contre l'Iran. Le porte-parole de la diplomatie a dit prêt Téhéran à revenir à ses engagements nucléaires liés au PGAC si Washington revient à son tour immédiatement à ses obligations pertinentes prévues dans le pacte multilatéral. Saïd Khatibzadeh a pourtant souligné que les États-Unis avaient montré de par leurs actions qu'ils ne sont pas dignes de confiance avant de préciser que la balle est maintenant dans le camp de Washington. Enfin, la directrice du bureau du HCR à Mashhad a déclaré « Les efforts de la République islamique d'Iran au cours des 40 dernières années dans le domaine des réfugiés sont louables et ont atteint leur apogée l'année dernière après les bouleversements politiques en Afghanistan ». Maha Kashour, s'exprimant dimanche soir lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition des réalisations des réfugiés afghans qui s'est tenue à Mashhad, une ville sainte au nord-est de l'Iran, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, a ajouté « Le Haut Commissariat des réfugiés, HCR, en partenariat avec l'ONU et le gouvernement iranien, essaie d'apporter une aide appropriée aux réfugiés résidant en Iran qui sont principalement originaires d'Afghanistan. » Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. La question du pétrole iranien s'invite au sommet G7, selon l'Élysée. Se référant aux discussions tenues mardi entre les dirigeants des trois pays européens, à savoir France, Grande-Bretagne et Allemagne, avec le président des États-Unis sur les pourparlers nucléaires, le bureau présidentiel français a annoncé que la question du pétrole iranien sera abordée pendant les réunions du G7. Selon un rapport de l'AFP, mardi, la présidence française a annoncé que la question du pétrole iranien avait été évoquée lors d'un dîner sur politique étrangère et sécurité et devait être discutée dans le cadre des réunions du G7. La France est favorable à la fixation d'un prix maximum du pétrole au niveau des pays producteurs afin de contrer l'envolée des prix provoquée par la guerre en Ukraine, a déclaré la présidence française en marge du sommet du G7 en Allemagne. L'Élysée a indiqué que 4 réunions étaient prévues entre Biden, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique et le chancelier allemand. Une source présidentielle française a déclaré « Ces pourparlers portent sur un certain nombre de facteurs tels que la volonté d'arrêter la prolifération nucléaire, la sécurité régionale qui nous a toujours intéressés et la question pétrolière. » La source n'a pas donné de détails sur les discussions américano-européennes sur la question du pétrole iranien. L'Iran et l'Union européenne se sont mis d'accord il y a 2 jours lors de la visite de Josep Borrell, le très haut diplomate européen en Iran, pour reprendre les pourparlers sur le nucléaire dans les prochains jours. Après avoir rencontré Borrell, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré samedi « Nous sommes prêts à reprendre les pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne dans les prochains jours et le bénéfice économique du peuple iranien est important pour le gouvernement iranien. C'était important pour nous de venir en Iran. Le but principal de mon voyage est de sortir de l'impasse et de réduire les tensions. Il est important pour moi de sortir de l'impasse du JCPOA, l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015. » Et nous allons entamer les négociations du JCPOA dans les prochains jours, a déclaré le chef de la diplomatie européenne lors d'une conférence de presse conjointe aux côtés du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 juin 2022. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir à Téhéran pour effectuer une visite officielle et s'entretenir avec les hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raïsi et son homologue, Hossein Amir Abdollahian, et discuter des questions bilatérale, régionale et internationale. Il s'agissait de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Iran depuis l'entrée en fonction du président Ebrahim Raïsi. Cette visite intervient au moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques et bien sûr au menu des discussions. Alors, le développement des relations, de la coopération économico-commerciale, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, les dossiers régionaux, entre autres la Syrie, étaient également au menu des discussions des 2 parties. Selon de nombreux observateurs, cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Téhéran-Moscou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite de M. Lavrov à Téhéran et bien entendu la perspective de la coopération entre les 2 pays dans les domaines économiques et politiques, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie russe s'est rendu mercredi soir à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités du pays, parmi lesquels son homologue iranien.
À la veille de son voyage, les médias occidentaux ont commencé leurs spéculations sur des motifs de ce déplacement. Le média des démocrates, la CNN, croit que les Russes se tournent vers un allié de confiance, qui est la République islamique d'Iran, pour savoir comment contourner un déluge des sanctions occidentales. Sans oublier le fait que de telles visites pourront donner un coup d'accélérateur aux accords de coopération, poursuivis notamment dans le gouvernement de Raïssi, entre les deux pays. Al-Arabi Al-Jadid vient de rapporter que l'un des objectifs de la visite de Lavrov en Iran était de favoriser l'élargissement de la coopération Téhéran-Moscou dans le sens de la lutte contre les sanctions américaines. Le média arabe, basé à Londres, déclare que les responsables des deux pays avaient récemment eu de nombreuses rencontres publiques et à huis clos. En référence à des sources d'information iraniennes, Al-Arabi Al-Jadid rapporte que Lavrov rencontrerait le président Ibrahim Raïssi, Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Les sources, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont souligné que lors de sa visite à Téhéran, Lavrov discuterait de la coopération réciproque dans les affaires régionales et internationales, y compris les évolutions concernant le dossier nucléaire iranien, de même que la situation prévalant en Syrie. La visite de Lavrov à Téhéran est en effet sa première visite en Iran depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Raïssi. La dernière visite de Lavrov remonte à plus d'un an, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Certes, cette dernière visite se fait dans un moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques, relevant des développements régionaux et internationaux, en particulier la guerre en Ukraine. L'incapacité et la faiblesse de Joe Biden a décidé d'aller au-delà de la politique ratée de la campagne de pression maximale contre l'Iran ont également abouti à une longue pause dans les négociations sur la levée des sanctions. Par conséquent, on peut dire que les sanctions occidentales contre l'Iran et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération des deux pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette édition du débat. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel.
Monsieur Cornu, alors, comme vous le savez, le chef de la diplomatie russe s'est rendu pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Raïssi à Téhéran, mercredi soir. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, bien sûr des affaires régionales et internationales, entre autres la situation en Syrie, la crise en Ukraine, mais aussi la coopération économique bilatérale était au menu des discussions des deux parties. Alors, au moment où le monde est confronté, en effet, à de nombreuses crises, où les deux pays notamment sont soumis à des sanctions occidentale, en l'occurrence américaine. Quel premier regard portez-vous sur l'importance de cette visite, la visite de M. Lavrov à Téhéran?
C'est une visite très importante et très positive, puisqu'il apparaît que la plupart des grands enjeux seront évoqués. La coopération régionale, l'Iran et la Russie partagent des côtes de la mer Caspienne, qui est un centre de production de pétrole et de gaz depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, et aussi les enjeux régionaux sur la Syrie pour trouver une issue favorable à toutes les combats, à toutes les envahissements de parties de la Syrie par la Turquie, sous le prétexte de protéger sa frontière contre des infiltrations, contre la présence organisée mais trop longue et mal gérée d'anciens mercenaires combattants qui ont été regroupés dans cette région, dans la province d'Idlib, suite à des accords locaux chaque fois, arrangés par la Russie avec l'accord de la Syrie. Et aussi, comme deux pays lourdement frappés par des sanctions plus ou moins légitimes et souvent même illégales, ces pays doivent réagir pour trouver des solutions positives, pour contourner ces sanctions et surtout pour montrer qu'elles sont vaines, qu'elles sont non seulement injustes, mais qu'elles affaiblissent en fait l'Europe parce qu'elles renchérissent les achats de gaz et de pétrole pour toute l'Europe. Et bientôt, nous allons entrer dans l'automne et ensuite la saison, donc où il y aura beaucoup de consommation. Donc il est urgent de trouver des solutions positives pour montrer que ces sanctions non seulement sont inefficaces, mais elles sont nocives pour toutes les parties. Et donc il faut trouver des voies pour relancer la diplomatie plutôt que jouer avec les bâtons que sont les sanctions.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à Monsieur Cordu. L'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, elle est fondamentale parce qu'elle est multidimensionnelle. Ce sont deux partenaires qui se font confiance. Il y a le volet militaire qui fait que rapidement, l'OCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, va se transformer en contre-OTAN, plus seulement l'OTCS en son sein, mais toute l'alliance. Deuxièmement, il y a le partenariat géo-économique qui est encore renforcé par la lutte contre les sanctions. Et on voit que, fort de l'expérience de l'Iran et du Venezuela, la Russie a tendance à fédérer les États sous sanctions, comme on l'a vu récemment avec la visite de Maduro en Iran. Et enfin, il y a évidemment dans le domaine de la guerre du gaz et des hydrocarbures, il y a une alliance fondamentale. Les Américains disent que Téhéran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans cette guerre. Et effectivement, si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie comme fournisseur des Européens, il aurait diminué l'emprise de ceux-ci sur le marché gazier pétrolier européen. Mais l'Iran a refusé de le faire et a laissé ce marché aux mains de la Russie en échange d'alliances stratégiques fournies par Moscou. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cela. Lorsque j'avais annoncé cette alliance en 2015, il y avait beaucoup de sceptiques. On m'avait opposé les divergences idéologiques qui existaient entre Téhéran et Moscou. Vous savez qu'actuellement, il y a deux visions de la géopolitique. Il y a la vision géopolitique occidentale, qui est celle notamment de l'administration Biden, qui fait prédominer l'idéologie, les positions idéologiques de la géopolitique. Par exemple, Biden divise le monde en démocratie libérale et en autocratie illibérale. Dans cette fausse analyse, des gens comme Orban ou comme Donald Trump, ils se retrouvent aux côtés de Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine ou aux côtés de l'Iran. C'est une fausse vision, évidemment. À Pékin, à Moscou et à Téhéran, on pratique une géopolitique classique. C'est-à-dire qu'on oppose de vieux empires continentaux, l'Iran, qui est l'héritier de la Perse qui existe depuis 25 siècles, la Russie, qui est la troisième Rome, l'héritière de Rome, qui existe depuis 27 siècles, et la Chine, qui existe aussi depuis 27 siècles, on l'oppose à des jeunes puissances talacrocratiques, jadis la Grande-Bretagne, aujourd'hui les États-Unis, sans grande histoire. Et quand vous regardez l'affrontement stratégique entre l'axe de l'Eurasie et le bloc américain occidental, vous voyez que le bloc américain occidental, il est structuré sur des puissances maritimes, le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tandis que l'Eurasie est structurée sur de vieilles puissances continentales et l'Afrique à laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai tend la main, c'est également l'existence de vieux empires. Qu'on se souvienne du Mali qui, aux alentours de l'an 1000, était l'État le plus avancé que les États musulmans et que les États européens. Et le Mali, justement, était à cette époque une puissance qui était détruite par le colonialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, Téhéran et Moscou, main dans la main, ils sont en train d'imposer une nouvelle vision de la géopolitique mondiale.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Cornu, alors, M. Michel l'a rappelé, il s'agit donc entre Téhéran et Moscou d'une coopération multidimensionnelle, d'un partenariat stratégique. Alors, dans cette logique de confrontation entre ces deux visions de géopolitique dont parlait tout à l'heure M. Michel, comment cette visite de M. Lavrov est perçue dans les milieux politiques et médiatiques occidentaux, dans le contexte des évolutions actuelles de la région, voire du monde, notamment sur fond de crise en Ukraine?
Les Européens ont voulu essayer de réduire leurs achats de gaz, de pétrole et de gaz aussi, de la Russie, puisque ce gaz alimente les caisses financières de la Russie, donc la guerre. Et les Européens veulent freiner, arrêter, certains même arrêter cette guerre, mais les restrictions font monter les prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution. Et il faut rappeler ici que pour les réserves mondiales de gaz, la Russie est numéro 1 avec 21% des réserves. L'Iran est numéro 2 avec 17% des réserves et sans doute le gaz le moins cher à produire du monde et encore peu exploité à cause des sanctions américaines illégales qui sont faites à la demande en fait de l'État d'Israël qui veut tout le temps agiter des menaces pour appeler à l'aide les grandes puissances et puis déformer la réalité, faire oublier sa propre occupation des territoires palestiniens. Et le troisième pays de réserve est le petit Qatar qui l'exploite depuis longtemps sous forme de gaz liquéfié qui est exporté vers l'Europe et vers aussi de plus en plus vers l'Asie. Donc ces trois pays font plus de 50% des réserves mondiales. Et donc pour ce marché du gaz, il est essentiel que au moins la Russie et l'Iran s'entendent et qu'ils tentent de se rapprocher des positions du Qatar qui est très sollicité actuellement pour vendre un peu plus de gaz liquéfié. Mais les contrats sont déjà pris, sont à long terme, on ne peut pas augmenter la production très rapidement. Donc en fait, l'Iran, ici, avec toutes ses réserves encore peu exploitées, son gaz pas cher, est une opportunité intéressante que sans doute la Russie va vouloir contribuer de développer. Comme vous savez, les sanctions ont fait partir la société Total qui avait signé un grand contrat. Et la situation en Ukraine fait que l'autre société française, Engie et Total, se sont rapprochés du Qatar. Donc il y a tout un des mouvements profonds. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit passif, il faut que la Russie et l'Iran reprennent l'initiative dans ce marché mondial du gaz. Et je pense que ça sera un des sujets à discuter. Bien sûr, c'est du moyen terme, c'est du long terme, mais c'est essentiel comme signal pour démontrer aux Européens, aux Américains, que toutes ces sanctions sont inefficaces, ont des effets très négatifs, notamment aussi pour la politique climatique mondiale, puisque utiliser du gaz liquéfié, ça fait beaucoup plus d'effets d'émissions de CO2 et de coûts aussi que l'utilisation du gaz naturel transporté par gazoduc.
Merci encore, M. Cornu. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, dans quelle mesure ce nouveau chapitre dans les relations entre Téhéran et Moscou pourrait non seulement contribuer à contrer les sanctions illégales, injustes et unilatérales des pays occidentaux, mais aussi, comme disait Monsieur Cornu, à permettre à la Russie et à l'Iran de reprendre l'initiative sur le marché, notamment mondial, du gaz et de l'énergie?
Les sanctions, c'est, je dirais, la frise sur le gâteau. Les mécanismes d'évitement, mais c'est un phénomène marginal. La véritable chose qui est au cœur de la crise ukrainienne, c'est la guerre des hydrocarbures. Mais contrairement à ce que racontent les Américains et les Occidentaux, la guerre des hydrocarbures qui comprend deux volets, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, elle n'a pas commencé il y a 100 jours avec la crise ukrainienne. Elle a commencé en septembre 2015, lorsque les Américains, avec la production des hydrocarbures de Chypre, sont devenus les dominants du marché du gaz et du pétrole. Depuis, La Russie, avec l'aide de l'Iran, elle contribue à combattre cela. Le principal volet, c'est la guerre du gaz. En juillet 2019, la Russie a organisé l'Union des États producteurs de gaz. Le premier sommet a été organisé en Guinée équatoriale, à Malabo, qui est un État pétro-gazier modèle et dont la régie d'État a pour actionnaire Gazprom. Là-bas, il y avait les Iraniens, les Vénézuéliens, les Algériens, les Sénégalais et également d'autres puissances. Ces gens se sont organisés. Quel est le but de ce qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz? C'est de reprendre le contrôle du marché du gaz aux Américains et de déterminer le prix du mètre cube de gaz, en sachant que tous ces pays produisent un gaz de bonne qualité, tandis que le gaz de schiste américain est de mauvaise qualité. Il pénalise durablement les sols pour plusieurs siècles en matière écologique, parce que la technique d'extraction qu'on appelle fractale détruit le sous-sol. Et enfin, ce gaz américain, il coûte 300 fois plus cher que les autres gaz. Le deuxième volet, c'est la guerre du pétrole, c'est-à-dire que la Russie s'est rapprochée de l'Arabie saoudite et elle a amené ses alliés dans l'OPEP, notamment de nouveau la Guinée équatoriale, qui est membre de l'OPEP depuis 2 ans. Aujourd'hui, évidemment, les Saoudiens ne sont plus du côté américain, ils ont refusé d'augmenter la production et ils tiennent du côté du bloc de l'Est. Il y a eu le second sommet à Doha il y a quelques semaines des États producteurs de gaz. Cette fois-là, il y avait les Émiratis et les Qataris en plus. Et à la grande surprise des Américains, ils ont basculé du côté du bloc de l'Est. Ils ont refusé d'augmenter la production et de supplier la Russie pour fournir les États-Unis et surtout les Européens. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ont parfaitement compris que le but des Américains en contrôlant le marché du gaz, comme en contrôlant le marché du pétrole, c'était de ruiner les États classiques producteurs. Les Qataris et les Émiratis savent qu'ils ont encore une quarantaine d'années à bénéficier de la richesse de la production d'hydrocarbures et ils ne veulent pas être les dindons de la face des calculs stratégiques des Américains. Voilà donc le rôle moteur de Téhéran et de Moscou dans cette affaire, c'est le rôle moteur dans la guerre des hydrocarbures. Et comme les Américains l'ont expliqué, je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des études qui sont sorties aux États-Unis, ils expliquent que ce qui a permis à Moscou de contre-attaquer et pour le moment d'être victorieux dans la guerre des hydrocarbures, c'est l'alliance avec l'Iran. Si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie pour fournir les Occidentaux, c'est-à-dire de faire de l'argent immédiat, mais d'être perdant à long terme, évidemment, les choses ne seraient pas passées comme telles. Les Américains ont raison de dire que l'Iran, c'est dans le domaine de la guerre des hydrocarbures, l'épée géopolitique de Moscou.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors, dans cette guerre des hydrocarbures, dans quelle mesure cette alliance entre l'Iran, la Russie, sans oublier bien entendu la Chine, pourra contrebalancer en quelque sorte les équations au détriment bien entendu des États-Unis. En d'autres termes, comment les sanctions injustes américaines pourront se retourner contre eux-mêmes, mais aussi contre les pays européens qui, malheureusement, se sont alignés sur la politique hostile des États-Unis envers la République islamique d'Iran, mais aussi la Russie.
Oui, M. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler l'émergence de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont des conséquences environnementales désastreuses sur place et dans le reste du monde. Moi, je voudrais rappeler que cette guerre des hydrocarbures, elle date même de plus longtemps. Par exemple, en Iran, la Russie tsariste et l'Angleterre se sont partagées en 1907 des zones d'influence en Iran. La Russie avait le pétrole de Bakou, au bord de la Caspienne, et était un peu moins intéressée. Par contre, les Anglais qui développaient leur flotte pour le contrôle des routes marchandes et contrôle de la défense de leur colonie indienne, est très, très intéressé à avoir du pétrole non loin de l'océan Indien. Et ensuite, les Américains ont pu un peu prendre la place du Royaume-Uni dans la péninsule arabique en signant des accords avec les Saoudiens. Et du coup, il y a une certaine, depuis très longtemps, une domination de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des États-Unis pour ce contrôle du marché des hydrocarbures. Et d'ailleurs, aussi à Londres, avant la guerre de 14, en 1912, à Londres a été créée la Turkish Petroleum Company, qui n'avait de Turc que le nom, avec quelques actionnaires turcs aussi, un peu plus ou moins discrets. Mais l'intention, très tôt, de l'Angleterre était de contrôler tout le pétrole abondant du Moyen-Orient, qui était connu par de plusieurs études géologiques dans les années 1870, 80, 90, et aussi au début du siècle, au moment où les Allemands étudiaient le tracé du chemin de fer Berlin-Bagdad, en Mésopotamie et aussi en Turquie. Donc c'est une vieille histoire. Il faut bien rappeler que le marché des hydrocarbures, ce sont les plus gros marchés du monde de commodités, de produits, et c'est aussi les marchés qui rapportent le plus, qui ont le plus de fluctuations à cause des spéculations, à cause du contrôle des robinets, ici le Venezuela, un jour l'Iran, un autre jour ou quelques décennies l'Irak. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental, et il est donc important que s'oppose à cet impérialisme anglo-saxon des forces plus indépendantes de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des pays arabes démocratiques ou qui peuvent le redevenir, et qu'il s'allie aussi à l'Europe pour cela, pour qu'à la fin que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis et des anglo-saxons pour son indépendance énergétique, pour sa solidité énergétique.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt. Un plaisir, comme d'habitude.
Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Au jardin des compagnons de voyage. Sohrab Sepehri est né à Kashan le 7 octobre 1928 et mort à Téhéran le 21 avril 1980. Il est un des grands poètes iraniens du XXe siècle, contemporain d'Ahmad Shamlou, Farouk Farrokhzad et Nima Yushij. Il est également connu pour ses peintures. Sepehri était un voyageur. Il a fait de nombreux voyages en Europe et en Afrique, a vécu un an aux États-Unis, puis deux ans en France. Les grands thèmes de son œuvre sont la nature, l'amitié et le sens de la vie. C'est en hommage à Sepehri qu'Abbas Kiarostami réalisa en 1987 « Où est la maison de mon ami ?» Khaneye Dust Kojast, un film portant le titre d'un de ses poèmes. Sohrab Sepehri est sans doute l'un des plus grands poètes de l'Iran contemporain. Peintre et poète à la fois, il est tout aussi imprégné de poésie dans sa peinture et qu'il est peintre des états poétiques. Or, ces deux expériences puisent à la même source. Et cette source est, pour autant que nous puissions en juger, un contact mystique avec la nature, un épanchement généreux vers le rythme secret de chaque pulsation qu'animent les hommes et les choses, une nostalgie des origines. Son regard se penche sans cesse vers ces moments chargés de la présence des événements miraculeux qui, à chaque instant, à chaque reprise d'haleine, accomplissent le destin invisible de notre univers. Enfant du désert, originaire de ce Kashan qu'il adore et où il se réfugie une grande partie de l'année, Seperi s'impose une discipline quasi ascétique de solitude et de silence. Dans cette bordure qui s'égrène autour du désert central de l'Iran, comme les graines de turquoise d'un chapelet, Kashan est comme le centre d'une constellation d'oasis enchanteresses. La végétation luxuriante d'un flanc de montagne s'ouvre aux eaux claires d'une source où saules, peupliers, rossignols et hirondelles se réfugient, créant au milieu des étendues arides des terres une fugace symphonie, un mirage de fraîcheur et de halte, où la page de l'histoire est tout aussi vite que la lampe du temps. Seperi connaît mieux que personne ces escales du désert, ces tapis verts qui accueillent les pas exaltés des pèlerins, la vision des coupoles bleues qui éclatent dans l'azur. Et c'est la topographie de cette terre de mirage qu'il reproduit, aussi bien dans l'exaltation mystique d'un poème que dans l'apparition d'une toile. Sohrab Seperi fut un des rares artistes dotés de talent, tant dans le domaine de la peinture que dans celui de la poésie. Pour les critiques littéraires, les œuvres de Seperi, que ce soit des toiles de peinture ou des poèmes, se caractérisent par leur haute qualité artistique. Avant d'être connu comme poète, Sohrab fut reconnu pour ses tableaux et sa modernité dans la peinture. Lorsqu'en 1951, il présenta dans une exposition ses toiles, un amateur d'art acheta tous ses tableaux, fait rare pour un jeune peintre. Les toiles et les esquisses que Seperi exposait avaient presque tous pour thème la nature, que le peintre-poète aimait le plus. Sohrab rappelle parfois dans ses poèmes qu'il est peintre. Il nous reste Sohrab Seperi un millier et quelques centaines d'aquarelles et de toiles de peinture à l'huile. Très jeune, il affirma son talent de peintre. Sa passion pour la peinture était telle qu'elle le poussa à abandonner sa carrière d'enseignant à Kashan pour prendre le chemin de Téhéran, afin de poursuivre ses études supérieures à la faculté des Beaux-Arts. Il obtint sa licence de peinture en 1953. L'influence de l'Extrême-Orient est bien visible dans ses toiles et poèmes. Sohrab doit également beaucoup à l'art occidental, de qui il a appris comment être libre, impartial et sans préjugés. Et de l'Extrême-Orient, il a su comment se pencher sur son moi et doter d'une profonde connaissance et d'une rare hypersensibilité, de regarder avec stupéfaction une feuille, une épine, un arbre, un mur ou un ruisseau, pour se plonger ensuite dans une contemplation mystique. C'est en éliminant le soleil de sa peinture que Seperi entraîne les objets de sa toile dans l'intemporalité et les montre comme s'ils pouvaient être toujours depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité. L'absence de l'homme de ses toiles, ou esquisses, est un autre trait saillant de la peinture de Seperi. Karim et Mami essaient d'expliquer ce phénomène et en trouvent la raison dans la personnalité même du peintre. Fixer l'œil sur la nature, éviter autrui est la clé des œuvres de Seperi. Seperi puisait les couleurs de ses tableaux de la riche palette de la nature. C'est la gamme des couleurs du sol du désert, des pieds des collines, du sommet brumeux de la montagne, de la mousse du ruisseau, du pisé cru des murs et de l'eau de l'étang. Brun, gris, ocre, noir et doré sont les couleurs dominantes de la peinture sépérienne. Or, à côté de ces couleurs mornes, Sohrab pose des couleurs vivantes et éclatantes, dont le rouge, le bleu lapis-lazuli, et le jaune. Ces taches font contraste avec le fond de la toile et en brisent ainsi la morosité. Sohrab fut au zénith de sa carrière de peintre, au moment même où il composait ses meilleurs poèmes, le Sepehri des recueils, les pas de l'eau, le voyageur et l'espace vert. Si le poète sonde à travers ses écrits les problèmes de son temps, il pourfend l'énigme de la mort et de la vie et reconnaît la mort comme l'égal de la vie, le peintre fige quant à lui les manifestations de la vie. Dans le monde sepehrien, les objets apparemment inanimés sont vivants. Il existe chez eux le grand désir de vouloir, l'enthousiasme de partir et le poids d'être. Voici maintenant quelques extraits des poèmes de Sohrab. Je viens de la contrée de Kashan. Ma vie, somme toute, n'est pas trop difficile. J'ai de quoi vivre, un brin d'intelligence, un minuscule talent. J'ai une mère plus douce que les feuilles de l'arbre, des amis plus limpides que l'eau courante. Je ne sais pas pourquoi on dit « Le cheval est un animal fidèle, la colombe est belle. » Et pourquoi personne n'a dans sa cage un vautour ? La fleur de nuit, qu'a-t-elle de moins qu'une tulipe rouge ? Lavons nos yeux, regardons d'une autre manière. Lavons les mots. Le mot doit être lui-même le vent, doit être lui-même la pluie. Fermons les parapluies. Allons sous la pluie. La pensée, le souvenir, emportons-les sous la pluie. Avec tous les gens de la ville, allons sous la pluie. L'ami le rencontrait sous la pluie, l'amour le cherchait sous la pluie. Se muer de plus en plus dans la vie. La vie, c'est se baigner dans la vasque du présent. Enlevons nos habits, l'eau est à un pas de nous. Demeure de l'ami. C'est à leur heure que retentit la voix du cavalier, montrant du doigt un peuplier blanc. Un passant répondit : Pas loin de cet arbre se trouve une ruelle boisée, plus verte que le songe de Dieu, où l'amour est tout aussi bleu que le plumage de la sincérité. Tu iras jusqu'au fond de cette allée, au pied de la fontaine d'où jaillissent les mythes de la terre. Dans l'intimité ondulante de cet espace sacré, tu entendras un certain bruissement. Tu verras un enfant perché au-dessus d'un pin effilé, désireux de ravir la couvée du nid de la lumière, et tu lui demanderas où est la demeure de l'ami. Ne salissons pas l'eau. En bas, peut-être un pigeon en bois, ou peut-être dans un bois lointain, un chardonneret y lave ses plumes, ou bien une cruche se remplit au village. Ne salissons pas l'eau. Il se peut que cette eau courante coule au pied d'un peuplier pour laver l'amertume d'une âme. Nous voici au terme de l'émission de cette semaine. Amis auditeurs, soyez nombreux la semaine prochaine aussi pour nous rejoindre sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. D'ici là, au revoir et bonne semaine.
Thank you.